Bonjour madame la saucissière, combien vendez-vous ces 6 saucisses-là ?
De Montbéliard, de Toulouse, de Lyon, de Strasbourg, la saucisse...
Plutôt morto.
J'ai vu 600 Suisses, 800, 600, 6 saucisses, dont 600 sauces et 600 sans sauce.
Au même moment, aux quatre coins de Berlin, des milliers de currywurst sont avalés.
C'est incroyable, très bon, l'une des meilleures saucisses de ma vie.
Si 600... Si 600 couteaux scie, scie en 6, 606 saucisses, la cuisine est sale.
Des knacks, ces petites saucisses voilà, dont les enfants raffolent en général.
Time for hot dog.
J'adore les saucisses.
C'est moi, c'est la saucisse.
La saucisse.
J'ai vu 600 Suisses suçant 600 saucisses, dont 600 sauces et 600 sans sauce. Yes, j'y suis arrivé.
Bien joué.
Exercice de prononciation ce matin, mais aussi de dégustation, de cuisson, de mastication autour de la saucisse. Salut à toutes et tous. Bienvenue à la table dont on va déguster. Il y a de la saucisse dans l'air. Des courtes, des longues, des fines, des grosses, des bien de chez nous et des très exotiques. Oui, car cette sacrée saucisse est présente dans toutes les civilisations culinaires. Elle est même devenue un totem universel. Et on va tenter de comprendre pourquoi avec nos deux invités. Émilie Greenberg, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, ça se pose là, vous êtes une véritable obsédée de la saucisse, au point de lui avoir consacré ce charmant petit bouquin. On pourrait le qualifier de monographie, très illustrée, qui inventorie des dizaines de saucisses, des recettes, des anecdotes historiques, des chansons, des textes littéraires à la gloire de la saucisse. J'aime la saucisse, c'est votre cri du cœur. C'est aux éditions Émilie Green et c'est votre propre maison d'édition.
Voilà. C'est ça, c'est moi. Donc je l'ai fait toute seule.
Vous publiez cet objet graphique autour de la saucisse, cet véritable objet culturel et culinaire, à compte d'auteur en quelque sorte.
C'est complètement un compte d'auteur, oui, oui.
Très bien.
Et j'ai fait un budget participatif pour pouvoir le faire.
C'est ça, tout ça est issu de Kiss Kiss Bang Bang.
Exactement.
Et vous nous avez apporté votre panthéon de la saucisse idéale. Il y a quelques variétés dont vous allez nous parler. Elles sont là, elles paradent sur le plateau dont on va déguster. Notre deuxième invité, c'est Antonin Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Ça va Antonin ?
Super.
Vous êtes le chef de Quinsou, un bistrot ouais. Qu'on aime beaucoup, qu'on peut vraiment qualifier d'éco-responsable. Vous travaillez que des produits issus de l'agroécologie. Ça se passe rue de l'Abbé Grégoire, dans le 6e arrondissement.
Ouais,
une étoile Michelin.
Une étoile.
Et vous venez d'ouvrir, c'est ça l'événement, la boucherie, charcuterie, Grégoire. Alors on est vraiment à 50 mètres de votre restaurant.
50 mètres, oui.
Incroyable. Où vous embossez de la saucisse. De haute volée.
De haute volée, ouais.
C'est ce qu'on va voir. Il y a un truc incroyable qui vient de nous préparer. On salive drôlement sur le plateau dont on va déguster.
Bon, ouais.
Ça sent même très très bon. Allez, c'est une surprise. On va pas révéler l'identité de votre spécialité que vous avez dressée. Il y en a autour de moi qui ont vraiment hâte d'y goûter. Quel chroniqueur pour nous accompagner jusqu'à midi en direct? Eh bien, je demande Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Ça va?
Très bien.
Ça va bien, ouais.
Le Jérôme Gagnès, il affiche un soleil jusqu'au temps.
Je suis au taquet, moi, la saucisse.
Ça, c'est l'émission de l'année pour
moi, pareil,
pour
je
ne
pouvais pas ne pas en être.
Ah, ben, bien sûr.
C'est ma passion aussi, ouais.
Vous avez même longtemps rêvé, allez, on va dévoiler un truc, longtemps rêvé de faire un livre
c'est
sur
vrai,
la saucisse.
Mais Émilie a été plus rapide.
On vous a grillé la politesse.
Et tant mieux, parce qu'il est super, votre bouquin.
Et vous nous parlez de quoi aujourd'hui ?
De la saucisse préférée des Français.
Ah !
Ou l'une des deux.
Ah,
l'une des trois, parce qu'il y a tellement de camps.
Je crois que c'est la préférée. Est-ce qu'on a deviné l'identité de cette saucisse à succès? Derrière votre transistor, solution des jeux dans le courant de cette émission. Jérôme?
Eh bien, nous partons dans le sud-ouest pour découvrir qu'il n'est pas argentin.
Ah, une petite énigme. Solution des jeux, là également, vers 11h45. Les podcasts de vos chroniques, chers chroniqueurs, le podcast de l'émission, nos coups de cœur, nos recettes sont à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de parler de saucisses, quelques coups de cœur. Et si on mettait l'alimentation durable sur la table, c'est en tout cas l'ambition d'Écotable, une association créée récemment, dont je suis membre d'honneur, et c'est pour moi un honneur. Écotable, une association qui fédère des restaurants gastronomiques ou populaires éco-responsables. Tiens, Quinsou n'est pas dans le réseau.
Bonne question.
Va falloir que ça cesse. Non, ils vont venir vous voir, franchement. Vous allez voir,
avec
ils font de très bons efforts. Non seulement ils répertorient évidemment des restaurants irréprochables sur le plan éco-responsable, mais en plus ils accompagnent de nombreuses tables à Paris et en région dans leur conversion écologique grâce à un réseau d'experts. Et cette communauté éco-responsable organise prochainement, Elvira, un événement à Paris pour faire avancer justement la cause de la gastronomie et de l'alimentation durable.
Oui, absolument. Et ça se passe samedi prochain. Il y a notamment un grand... un grand banquet éco-responsable avec un menu durable auquel participe notre camarade Estherelle Payani.
Oui.
Elle collabore avec six autres talents de la communauté écotable. Chloé Charles, qu'on a reçu ici, aussi, chef indépendante.
Et très engagée.
Reine du recyclage et de l'anti-gaspi. Le chef de la résidence, qui est le restaurant, un des restaurants pérennes de Grand Contrôle, parce que tout se passe à Grand Contrôle dans le 12e arrondissement, rue de Charolais. Chef d'origine syrienne, qui tient le restaurant du Refugee Food Festival. Voilà, il y a 6-7 personnes qui cuisinent comme ça ensemble et qui préparent cette espèce de grand médié responsable qui se tient samedi soir prochain. Il y a également des ateliers, et je crois que vous allez y aller en famille, vous.
Oui.
Des ateliers de cuisine pour enfants, des ateliers semis et semences organisés par l'école comestible, des ateliers sur les légumes locaux, l'apiculture. Voilà, tout se passe à Grain de Contrôle.
Le samedi prochain.
Samedi prochain.
De 14h à minuit.
Entrée libre.
Oui.
Sur réservation pour les ateliers, graincontrôleparis.com.
Oui.
C'est vraiment une superbe initiative.
Absolument.
Qui promet d'être assez passionnante.
On vous encourage vraiment à aller entre amis ou en famille à cet événement. Ouais. Donc ça s'appelle À vos fourchettes et c'est effectivement samedi prochain.
Ah oui, tiens, j'avais pas
donné le nom. À vos fourchettes le 30 novembre à Grande Contrôle dans le 12e arrondissement de Paris. Et puis un petit coup de cœur à goûter, il circule autour du plateau. Est-ce que vous l'avez goûté? C'est une salaison que je vous propose de Wettel.
Oui, elle est là-bas, on l'a goûté.
Alors, de quoi il s'agit d'abord?
C'est du coin-coin fumé.
Du coin-coin fumé, il y a de ça. C'est un magret de canard. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'était sapide, c'est suffisamment peu fumé pour que ça ne prenne pas le dessus.
Ouais, c'est subtil.
Il y a du moelleux et il y a du gras. Et on aime le gras parce que le gras, c'est la vie.
Et c'est du bon gras.
Ouais.
Quelques tranches, effectivement, d'un magret de canard légèrement fumé, très peu salé, un peu séché, mais encore bien moelleux avec un gras...
Très moelleux.
Un gras très juteux en bouche, j'ai la bouche pleine d'ailleurs. C'est signé Béatrice Clavel, une éleveuse installée à Sarliac-sur-Lille, en Dordogne, dans le Périgord. Elle travaille des oies et des canards IGP du Périgord. Elle fait un foie gras, tout ce qu'il y a de plus artisanal, et on lui doit donc cet excellent magret séché, pas trop salé encore une fois, qu'il faut vraiment déguster à température ambiante, vous savez. Quand le gras commence à devenir légèrement luisant. Et son atelier s'appelle À la truffe du Périgord. Pourquoi on parle de Béatrice Clavel? Parce que elle remporte l'un des 12 coques d'or qui ont été remis il y a quelques jours. Et les coques d'or, Elvira, expliquez-nous ce que c'est.
C'est la distinction suprême qui est remise par l'équipe du Guide des Gourmands. Et le Guide des Gourmands, c'est l'annuaire des meilleurs produits de France et d'Europe qu'a créé une journaliste qui s'appelle Elisabeth de Merville, il y a plus de 30 ans, bien avant que ce ne soit la mode de s'intéresser vraiment aux produits et aux conditions de production de ces produits artisanaux. C'est peu de dire qu'elle a été une pionnière du bon et du bienfait. Avec l'exigence qu'on lui connaît, ça n'a donc rien d'étonnant qu'elle le soit toujours. Et elle le prouve encore une fois en primant cette année 6 femmes.
Sur 12.
Sur 12.
Donc, on peut parfaite, lui faire confiance, parfaite parité en plus.
Ouais, on peut lui faire confiance pour que ces 6 femmes fassent un travail absolument exceptionnel et exigeant.
Et on vous encourage vraiment à consulter et acheter le guide 2020 des gourmands. C'est vraiment
c'est un travail formidable.
Un annuaire incroyable sur tous les meilleurs produits du terroir, en tenant compte évidemment de tous les critères de l'agriculture paysanne, etc. 32e édition cette année, à trouver dans les bonnes librairies. Le guide 2020 des gourmands d'Elisabeth de Merville et ses amis. Toutes nos infos pratiques sont à consulter sur franceinter.fr à la page On va déguster. Laurent Thomas réalise l'émission avec Serge Viguier à la console. Nadia Chougui et Marion Philippe sont à la préparation. On hisse la saucisse. Juste après, Chip Chip, c'est fini. C'est un extrait du nouvel album d'Arnaud. Bon appétit sur France Inter.
Elle est à l'imprévu, un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Elle est ma bulle d'air comprimée de mes soirées. Dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip, chip, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées. Nouvelle idée. Elle est le radeau qui m'amuse. Elle est ma muse. Elle est mon péché principal, mon obsession sentimentale, mon incendie, mon petit coin de paladis. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini. Thérapie, ma sophrologie. Elle est ma chance, sans incidence. Elle a l'aimé et le plus beau de mes soucis. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, chip chip, c'est fini.
With 71 hot dogs and buns, 12 victories in Coney Island, the champion of the world, Joey Chestnut!
Bienvenue dans le monde impitoyable de la Trash Food. On était dans l'ambiance du concours Nathan's. C'est un concours que vous connaissez sans doute peut-être? Nathan's, ça vous dit quelque chose?
Oh, un tout petit peu.
Alors?
Non, non, c'est le plus gros concours.
Oui.
Le plus gros concours, en fait, pour manger en grosse quantité le plus rapidement possible des hot dogs.
C'est ça. Nathan's, voilà. C'est une enseigne de hot dog industrie, exactement. C'est parfois ça, les États-Unis, hein, sans faire d'anti-américanisme primaire. Nathan's, c'est une enseigne de hot dog industrielle qui sponsorise un championnat qui se tient tous les ans le 4 juillet lors de l'Independence Day. Je ne savais pas que le hot dog était d'ailleurs le plat national ce jour-là.
Oui.
Ils s'en consomment quand même aux États-Unis 115 millions ce jour-là d'unités de hot dog. Et la règle du jeu de ce championnat, elle est toute simple. Le gagnant est celui qui ingurgite le plus de hot dog en 10 minutes avec interdiction de recracher. Et le champion de toute catégorie, c'est effectivement ce Joey Chestnut, qu'on surnomme Joe's, c'est mâchoire en anglais, qui a remporté en 2018 sa 11e victoire en ingurgitant, tenez-vous bien, 71 hot dogs en 10 minutes. Voilà. L'histoire ne raconte pas comment s'est passée la digestion. C'est un peu le problème du hot dog, Emily Greenberg, c'est qu'il est souvent considéré comme un emblème de la malbouffe.
Alors, c'est un emblème de la malbouffe, mais parce que c'est lié avec toute l'histoire de la saucisse, qui est quand même très compliquée. Et c'est vrai que comme on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, on a un peu l'impression que souvent c'est des bas morceaux, pas bons, et voilà.
Il y a une suspicion.
C'est pas très agréable à manger, mais bon, après, le Nathan's, c'est juste le concours, c'est pas le hot dog très joli comme on peut avoir, c'est vraiment le pain, la saucisse. Il n'y a même pas de sauce pendant ce concours-là.
Remarquez, tant mieux pour lui, parce que 71 d'affilée...
Non, mais il ne pourrait pas, sinon, ouais. Je pense. Il y a une femme qui a gagné aussi. Hein. Elle n'en a pas 71, elle a 41,
oui,
je crois. Elle a fait 41, c'est une japonaise.
Absolument.
C'est la plus connue. Elle est très, très bon dans ce jeu-là. De toute façon, ce jeu-là, c'est un jeu japonais. Hein.
Oui.
Manger tout, ils le font avec des hot dogs, ils le font avec des sushis, ils le font avec plein de choses.
Donc, absolument.
Mais c'est le plus gros concours. Ouais.
Le hot dog, alors, il est évidemment naturalisé américain, mais c'est quand même une pièce rapportée. On peut même parler d'un emblème immigré.
Ah, complètement. C'est vraiment lié à toute l'immigration pour la découverte des États-Unis. Donc, les premiers Allemands, quand ils sont arrivés là-bas... Donc il y a plein de petites histoires, mais il y a la fameuse histoire, ils auraient eu un teckel avec eux, donc c'est pour ça qu'on dirait le hot dog qui veut dire chien chaud,
oui.
Ça viendrait de là.
Oui. Les migrants allemands arrivés aux US, ils apportaient souvent dans leur valise un teckel.
Un teckel.
Le chien saucisse, quoi.
Oui, mais si vous tapez hashtag saucisse, vous avez des teckels en photo, donc c'est parce qu'on les appelle aussi comme ça, appelle les chiens saucisses.
Donc origine européenne.
Donc ça vient de là, origine européenne. Ouais,
ensuite, il y a des écoles aux États-Unis, le hot dog est devenu une véritable religion. Il y a notamment l'école Chicago versus l'école new-yorkaise.
Ouais. L'école Chicago, moi je préfère parce qu'il y a de la tomate, Il y a des cornichons, il y a des pickles, donc c'est ce que je trouve très sympa, c'est les petits légumes marinés. Mm-hmm. Vous avez de la relish, qui est aussi des petits condiments qu'on mélange avec notre saucisse, et un pain au pavot.
Voilà. Un pain au pavot, moi, ça c'est Chicago.
Ça c'est Chicago.
D'accord.
New York, c'est plus classique, c'est juste la saucisse, moutarde, ketchup, point. Et ça a été développé, on a rajouté, donc là on revient toujours avec l'histoire de la découverte, il y a du chou, puisque la choucroute, pareil, vient de l'Allemagne, donc on a de la choucroute, et voire aussi des oignons frits. Mm-mm. Voilà, donc ça c'est New York.
C'est ça.
Il y a deux écoles.
Il y a deux écoles. Et vous revenez abondamment, évidemment, sur cet emblème de la street food dans J'aime la saucisse, le livre que vous avez écrit, totalement monomaniaque et assumé comme tel. Puisqu'il y a des recettes de l'histoire, c'est plus qu'un livre de cuisine. Vous dites c'est un mode de vie saucisse. Très bel objet graphique d'ailleurs, vous êtes occupé de tout, des textes, de la maquette, de l'édition.
Ouais.
C'est ce qui s'appelle du homemade total.
Complètement.
Très bien.
Je suis graphiste, donc c'était facile pour moi de le mettre en page, c'est vraiment mon métier. C'est un peu le hasard de la vie qui m'a fait découvrir ce projet. Et on m'a proposé de faire un livre de cuisine très 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 différent de ce qu'il y avait, juste recette photo. Moi j'avais envie de faire quelque chose de plus complet, où on sente le pays, les voyages, où quand on mange quelque chose, on raconte une histoire. Donc j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire un livre où on parle des chansons, des blagues, des citations, qu'on sente le pays à chaque fois, parce qu'il est rangé par pays.
C'est ça. Eh bien Paris.
Donc, c'est ça que je voulais.
Paris réussit et on va en parler tout au long de cette émission. Vous nous avez apporté évidemment vos saucisses préférées. Antonin Bonnet, hot dog. Alors bon, moi je connais vos convictions gastronomiques, alimentaires. Ça vous arrive toutefois de croquer quand vous voyagez aux États-Unis dans un hot dog? Est-ce que vous êtes plutôt de l'école Chicago ou New York?
Oui, ça m'arrive de manger des hot-dogs comme tout le monde. Je pense que je préfère l'école Chicago, ça paraît plus appétant.
Oui.
On trouve aujourd'hui comme pas mal d'endroits où il y a du fait maison, il y a un artisanat, même aux États-Unis, même quand j'avais visité les copains à Los Angeles, tout ça. Il y a Chris Cronin notamment qui fait des trucs très sympas. Il fait des burgers, il fait tout maison, il source sa viande, il source ses produits. Donc on peut manger de la malbouffe, mais saine.
Évidemment, on peut manger d'un hot dog de très bonne qualité avec des saucisses faites maison, sans cochonnerie, sans gros mots à l'intérieur. On est bien d'accord avec ça. Il y a l'école Chicago, l'école New York et l'école Antonin Bonnet pour le hot dog, figurez-vous. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Antonin? C'est incroyable, tout le monde a envie de croquer dedans, ça sent bon.
En fait, ça c'est un petit travail qu'on a fait sur le food market. On voulait faire un hot dog.
Oui.
Et donc on a fait un petit pain avec les farines de Roland. On a fait la saucisse.
Attendez, vous allez un peu vite. Mais des pains avec la farine de Roland. Là, on parle évidemment du grand maître Roland Feuillas à Cucugnan, hein,
on parle
souvent dans cette émission, mais qui est vraiment, pour le coup, un homme sentinelle qui montre la voie concernant les farines agroécologiques.
Ensuite, c'est un peu un mix de cultures. Donc, il y a une partie de la Lozère où j'ai vécu.
Oui.
Donc, saucisse aux herbes.
Ouais.
C'est presque une saucisse végétarienne. 50% blette.
Donc 50% cochon, 50% blette.
Ouais, exactement.
Pour faire écho à vos racines paysannes du côté de la Lozère.
C'est pour les flexitariens, c'est bien.
C'est ça.
Et ensuite, c'est une autre partie de ma culture. J'ai épousé une Coréenne, donc on a mis du kimchi dedans parce que le cochon et le kimchi, c'est immanquable.
Comment s'appelle votre épouse coréenne? Elle est présente.
C'est Gina.
Elle est présente avec nous dans le studio, dont on va déguster. Cache. Vous êtes très attaché évidemment à la Corée, ce qui explique cette petite touche pimentée qui devrait plaire.
Exactement. Ça va arracher un peu.
Ça va arracher un petit peu, mais voilà.
Vous en avez
c'est
partout,
bon,
votre sauce qui dégouline sur votre chemise, vous n'en avez pas.
Et puis, le truc vachement important, c'est le dog, on va s'en mettre de partout. Quoi. C'est...
Mission réussie. Ouais.
Mission réussie.
Ouais, qui redécore le studio. C'est moi, ceux qui présentent la matinale demain, vous êtes très contents dans le studio.
Je leur laisse un joli cadeau. D'une part, donc, ils pourraient me remercier. Et ensuite, de ça, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment
ça. Inspiré de goûter, peut-on de faire le malin?
Oui, mais je vais goûter quand j'aurai une toute petite pause parce que je vais parler la bouche pleine, mais c'est bon, non?
Oh la vache.
D'accord.
C'est plus que bon.
Émilie?
C'est délicieux.
C'est un truc de dingue.
C'est un truc de dingue, c'est super bon. C'est vrai qu'avec le kimchi, c'est.
D'abord, le pain est extraordinaire. Ah.
On rappelle ce que c'est que le kimchi en un mot. Vous vous inspirez du kimchi évidemment pour assaisonner, condimenter ce hot dog.
Kimchi, c'est le chou fermenté, donc à la coréenne, avec poudre de piment. Donc il y a autant de recettes de kimchi qu'il y a de fromage en France, je pense. Mm-hmm. Il n'y a pas de limite. Là, c'est Gina qui a fait celui-ci, pour nous spécialement.
Oui.
Et donc c'est un classique, c'est pecho kimchi. Mm-hmm. Kimchi de chou. Et
kimchi
pas mal.
De chou avec une bonne dose de piment, c'est absolument phénoménal. Bravo pour cette prouesse. Où est-ce qu'on peut trouver à Paris votre hot dog?
La boucherie Grégoire.
Oui.
Pas le hot dog, mais au moins la saucisse et au moins le kimchi.
Non mais le hot dog, on le veut.
Faut ouvrir une boutique.
Alors, faut ouvrir une boutique.
On renseigne notre dog. C'est comme ça que ça va commencer. On donne un bonnet, évidemment. Bravo, vraiment bravo. Revenons à la saucisse. On attend que
Jérôme n'ait plus la bouche pleine.
Non, mais c'est une catastrophe. Moi, je me cache les yeux parce que Jérôme, sortez de ce studio, s'il vous plaît. Saucisse, on le disait, totem universel. Alors, commençons par une définition assez simple de la saucisse. Quel est le dénominateur commun parmi les dizaines et dizaines de saucisses qui existent et que vous avez citées dans votre livre, Émilie?
Un boyau.
Oui.
Avec une viande à l'intérieur.
Fermée aux extrémités. Oui.
Voilà. Après, viande, ce que vous voulez. Évidemment, plus souvent du porc, mais vous avez du veau, vous avez de l'agneau, avez du bœuf, voilà, du mouton aussi. Et il puis, vous en avez au poisson. J'ai malheureusement pas eu la place de tout mettre dans mon livre, mais il y en a au poisson. C'est super.
Il existe même des saucisses végétaliennes.
Ah, et aussi, bien sûr.
Ou au tofu.
La tomate, enfin... Il y en a des super, hein, il y en a des magnifiques avec du champignon, avec des voilà, il y a vraiment plein de sortes. Hein.
Et s'il fallait, Émilie, dresser, comme vous le faites au début de votre livre, dans le propos introductif, une petite typologie des saucisses. Il y en a partout, sur tous les continents, en Europe, en France évidemment, on va se rendre compte que c'est un des pays de la saucisse, mais on va parler beaucoup de l'Allemagne, peut-être l'Angleterre avec Elvira Masson, et partout dans toutes les civilisations culinaires. Il y a effectivement plusieurs familles, il y a les crues.
Les crues, voilà, donc c'est comme la Cumberland ou celle qu'on vient de manger au départ, qui est donc une saucisse crue, c'est-à-dire la viande est crue et ensuite il faut la faire cuire.
On la grille, on la grille. Hein.
En général, on la grille. On peut les faire pocher aussi, quand même, il y a deux écoles, mais c'est vrai que c'est souvent grillé.
Ça peut être notre chipolata, par exemple.
Complètement, chipolata, très bien.
Ensuite, il y a les cuites.
Il y a les cuites.
Oui.
Donc là, les cuites, ou les émulsifiées, on appelle ça comme ça, elles ont une espèce de pâte, donc là, c'est les knacks, la Strasbourg... À Francfort, tout à fait. Donc ça, c'est autre chose. C'est très très fin. Ça fait comme une espèce de pâte. C'est celles qui ont moins bonne presse et pourtant qui sont super bonnes. Voilà. Donc ça, c'est les émulsifiés.
Il y en a des un peu fermentés.
Ouais, un peu fermentés, tout à fait. Donc là, on mélange de la viande en général avec du sucre et du sel.
Oui.
Et du coup, tout ce mélange-là, chimiquement, ça va commencer à cuire votre saucisse.
Parfois un peu de vinaigre.
Parfois aussi du vinaigre. Ouais, tout à fait.
Alors ça peut être la Ndouya de Calabre par exemple.
Voilà, cette qui donne saucisse. Une espèce de pâte comme ça. C'est souvent des saucisses qu'on peut tartiner.
C'est ça.
Soubressade et tout ça quoi.
Oui.
Soubressade aussi, hein, tout
exactement,
à fait.
Exactement Elvira. Comment on pourrait définir ça? C'est de la chair à saucisse qui est légèrement relevée de piment.
Oui, c'est souvent assez relevé. Ça peut se manger comme ça à la fourchette ou tartiner sur du pain aussi.
C'est une saucisse façon pâte à tartiner en quelque sorte.
Exactement.
Après il y a les sèches. Alors là c'est ambigu parce que les saucisses sèches ne s'appellent-elles pas des saucissons?
Si. Okay. Mais vous avez aussi des saucisses sèches qui ne sont pas appelées des saucissons. Mais sinon, normalement, c'est des saucissons.
Il y a également les demi-sèches.
Il y a les demi-sèches. Alors là, c'est vrai que c'est un peu pointu, mais les demi-sèches, on pourrait dire que c'est des fermentés qui ont été séchés.
Oui.
Donc, les gendarmes,
oui.
C'est des demi-sèches, celles qui se mangent par deux. Fricatelle aussi.
Fricatelle, là, on parle d'une saucisse de foie, de porc, corse ouais. Parfois un peu fumée, qu'on grille comme ça à la cheminée. C'est la saison en ce moment.
Ça, c'est bon. Ouais. Ça arrive.
Ça, c'est mortel.
Vous en vendez à la boucherie?
Oui.
Du Figatel?
Oui, bientôt.
Ah bon, va falloir qu'on...
On attend qu'ils arrivent.
Va falloir qu'on... Oui, c'est ça. Va falloir qu'on revienne assez rapidement. C'est une saucisse d'hiver. C'est vraiment un produit tout à fait extraordinaire.
Génial.
Quand c'est bien fait. Vous nous avez apporté, évidemment, plein de saucisses, chère Émilie. Vous avez un prisme. On va le comprendre pourquoi. Bah, d'abord parce qu'objectivement, c'est peut-être bien le pays qui a le patrimoine le plus hallucinant en matière de saucisses. Vous avez un prisme un peu allemand.
Ah oui. Effectivement, l'Allemagne, c'est quand même le pays de la saucisse. Je pense que c'est le truc, on peut pas, on peut pas dire autre chose.
Vous êtes d'accord?
Ah bah oui, c'est un pays. Enfin, moi, j'y suis beaucoup allé. C'est le paradis absolu pour la saucisse.
Il parle même allemand, Jérôme?
Oui, oui.
Bah, ça se voit pas. Ça s'entend pas, en tout cas.
Doch. das, wir können Deutsch auf die Sendung auf Deutsch machen. Kein Problem.
Je suis un peu perdu, mais.
Émilie. Oui. Entre 1000 et 1500 variétés de saucisse, à peu près.
Incroyable.
Incroyable. Après, il y a, à mon avis, autant de saucisses qu'il y a de charcutiers, comme partout. Mais en gros, c'est ça, ouais. Beaucoup
de saucisses. Alors, ce qui est curieux, c'est que l'Allemagne est effectivement une terre de saucisses. En France, pays de la gastronomie, on adore les saucisses. On n'a quand même pas de, on n'a pas de complexe en matière de saucisses. Ah, simplement, on a tendance à cacher nos saucisses dans des plats. Le petit salé, le cassoulet, la potée, la choucroute. La galette saucisse bretonne, bah, la saucisse, elle est emmitouflée dans sa galette de sarrasin. Alors qu'en Allemagne, on fait de l'exhibitionnisme. On montre sa saucisse.
Ouais, en Allemagne, ouais. C'est-à-dire que même les pains sont trop petits. C'est ça qui est trop mignon, c'est-à-dire qu'ils ont des tout petits pains boules et vous avez une énorme saucisse qui va faire 20 cm qui va dépasser de chaque côté. Ouais, non, effectivement, en Allemagne, ils n'ont pas de complexe sur la saucisse.
Bon.
Ils ne sont pas gênés.
Évidemment, en Allemagne, on parle d'un truc assez important, enfin de pas mal de saucisses. Vous avez une adresse à nous confier, une adresse parisienne.
Ouais, j'ai une adresse parisienne.
Qui va intéresser les amateurs de saucisses et les germanophiles, germanophones, germanophages.
C'est Der Tante Emma Laden. Ils sont dans le 10e.
Oui.
Ils ont un site internet, hein, on peut commander. Donc, si on n'est pas à Paris, on peut quand même se connecter et ensuite, effectivement, se faire livrer. Donc, voilà. Mais c'est la boutique allemande.
Dans le marché couvert Saint-Martin.
Dans le marché couvert Saint-Martin, dans le 10e.
Le ouais, château d'eau.
Génial.
Faites-nous goûter une première saucisse juste avant qu'elle vire après la parole.
On a fait passer, là, déjà, et elle est restée bloquée là-bas.
Ah, je veux goûter, moi. Alors, Antonin.
Elle est restée bloquée à côté de chez moi.
De quoi s'agit-il? On l'a décrit. Elle est blanche.
La Münchner Weisswurst.
Elle est assez molle. Elle pourrait ressembler à un boudin blanc.
Elle pourrait ressembler à un boudin blanc. Voilà. Normalement, faut pas manger la peau. Ça, c'est pas grave.
Ah non, moi, j'adore parce que ça claque.
Bah ouais, ça claque un peu, mais normalement, c'est cette fameuse saucisse que j'appelle la saucisse flottante parce que c'est une saucisse qu'on doit manger avant le petit déjeuner qui se maintient au chaud et c'est une tradition, donc en fait ça ressemble un peu au boudin mais
avant le petit déjeuner, ça veut dire qu'on mange quoi au petit déjeuner en fait?
Alors en Allemagne ils ont plein de repas, ils se lèvent très tôt et ils ont plein de repas, ils font plein de collations. Donc je pense que
ça, me suis demandé de si snack.
C'est pas c'est une pré-snack. Je me suis demandé si ça pouvait pas être une interprétation d'ailleurs de pourquoi il y avait autant de variétés de saucisses.
Vous la surnommez la saucisse flottante parce que lorsqu'on la fait pocher, donc dans de l'eau bouillante, effectivement elle a tendance à flotter. On le comprend parce que elle a vraiment un moelleux absolument incroyable. Comment vous l'appelez en allemand? Moi je vais pas m'aventurer à
la
prononcer.
La Münchner Weisswurst.
Là,
Münchner Weisswurst,
ça veut dire
saucisse blanche de Munich.
Saucisse blanche de Munich. Et à l'intérieur il y a de la mie de pain. Il y a quoi?
Il y a du veau, du porc. Et du citron.
Et on le sent, ce citron.
Et un peu de persil.
Et un peu de persil, absolument. C'est
et c'est vraiment la saucisse du coin. Enfin, ils sont, c'est la plus connue.
Ils sont maniaques de cette saucisse, vous
avez
compris.
Ouais, vraiment maniaques. Ils aiment pas trop d'ailleurs qu'on compare au boudin, mais ça pourrait être l'équivalent pour nous d'un boudin blanc. Mm. Moi, c'est une de mes préférées. Elle est drôle. Ils ont même un verbe pour la manger.
Ah.
Alors, je sais pas trop bien le prononcer, il va me corriger. Susan, quand on l'aspire.
En fait, Susan.
Parce que normalement, elle se mange, vous devez couper les extrémités et vous devez l'aspirer.
Pour éviter de manger le boyau.
Voilà, sinon, il faut couper le boyau avec un couteau fourchette et proprement et on la mange comme ça.
Non, c'est l'équivalent allemand du tsolo-tsolo pour les nouilles japonaises.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il faudrait faire une émission sur ces nourritures qui s'aspirent. Vous avez compris, chers amis, si vous n'aimez pas la saucisse, allez faire un tour en forêt, éteignez votre radio parce que on parle saucisse et on évoque évidemment la saucisse la plus, j'allais dire la plus successful, la plus populaire, absolument. La saucisse la plus populaire de France.
On va déguster. Sur France Inter.
Elles sont là, elles paradent sur le plateau dont on va déguster. On ne sait pas encore de quoi il s'agit.
Sauf que là, c'est la très très belle version que je vous ai apportée. Je casse un peu l'ambiance. 27 août 2019, lu dans 60 millions de consommateurs. Un lot de merguez de la marque Jean Rosé, vendu par Intermarché notamment, est susceptible de contenir des petits éclats métalliques. Quelques années plus tôt, 2016... Des lots de merguez de la marque Saviel ont été rappelés par Intermarché, toujours. Des lots de merguez contaminés par des salmonelles.
Sympa.
Ça va, vous avez toujours faim? Je parle là donc de la saucisse préférée des Français, la merguez, avec ex aequo avec la chipolata. Ce sont 120 000 tonnes écoulées par an. Passion pour le barbecue oblige, parce qu'il s'en écoule surtout beaucoup l'été.
Oui, c'est assez saisonnier comme produit.
Voilà. Donc vous l'avez compris, les merguez sont particulièrement surveillées par la répression des fraudes. Près de la moitié des merguez prélevées en 2017 ont été jugées non conformes. Et déjà en 2013, 60 millions de consommateurs alertaient sur de possibles traces d'animaux non signalées sur l'étiquette, dont parfois du porc, alors que le principe de la merguez est tout de même d'être une saucisse de bœuf ou d'agneau ou de mouton, en tout cas jamais de porc pour des raisons évidentes d'origine géographique. La merguez vient du Maghreb, on en trouve les origines dans la cuisine médiévale berbéro-musulmane, donc évidemment elle ne contient pas de porc. Quand ce ne sont pas des traces de métal ou de plastique, on y trouve également des résidus de plumes d'oiseaux.
Ah mais vous allez arrêter, oui. Il paraît qu'il y a même du plastique.
Oui, du plastique, des plumes d'oiseaux. Et puis, très régulièrement, des colorants interdits ou dépassant les doses réglementaires. Il existe fort heureusement, désormais, un label rouge, merguez véritable, j'ouvre les guillemets, avec un cahier des charges précis, viande de bœuf, label rouge, 20 à 30% de viande ovine, colorant naturel, c'est-à-dire curcuma, paprika, piment, additifs interdits et boyaux naturels non colorés. Moi, ce que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est encore autre chose. C'est la Rolls de la merguez. Une Rolls de la merguez qui vient de la meilleure boucherie halal que vous puissiez imaginer.
Elle est incroyable.
C'est la boucherie Les Jumeaux, au Lila. C'est la maison des frères Karim et Slim Loumi. Ils ont ouvert leur boucherie en 2013. Progressivement, à force de sillonner les routes de France à la rencontre des meilleurs éleveurs, des plus belles races, des plus beaux pâturages et des plus respectueux, à force de persuasion aussi, à force d'opiniâtreté, parce que des fins de non-recevoir, ils ont quand même essuyé un paquet auprès des éleveurs, ils ont réussi leur pari, proposer le fin du fin de la viande halal. Dans cet endroit magnifique, on se croirait vraiment chez un joaillier, on peut lécher le sol, lécher les parois du labo, avec des chambres de maturation pour leurs plus beaux spécimens. Ils ne sont plus estampillés bio, car depuis quelques mois, il a été décidé au niveau européen que la pratique halal qui proscrit l'étourdissement des bêtes au moment de l'abattage n'était pas compatible avec le cahier des charges de la bio, dans son volet bien-être animal, bien sûr. Alors, il y aurait beaucoup à dire, je pense que c'est le sujet d'une autre émission, il y a pas mal d'amalgames sur ce qu'on peut trouver acceptable ou non dans les techniques d'abattage. Il y a des sacrificateurs qui travaillent en respectant les règles de l'art et qui veillent à ce que la mort de l'animal soit la plus rapide possible. Il y a aussi des pratiques dans l'abattage que l'on connaît tous, l'abattage, j'allais dire, à la française, enfin traditionnelle, des techniques d'électronarcose complètement inefficaces. Autre sujet, mais je ne pouvais pas non plus ne pas l'aborder complètement.
Absolument.
Par ailleurs, je signale qu'aux jumeaux, on trouve du foie gras préparé à partir de canards non gavés. Je ferme la parenthèse. Donc on y trouve également du bœuf de Galice, de la Retinta, du bœuf Wagyu de Sébastien Chérel, un élevage magnifique en Ille-et-Vilaine, de l'agneau de présalé du Mont-Saint-Michel, d'une toute petite coopérative, de la volaille de Bresse. On trouve aussi des produits transformés absolument superbes, de la mortadelle de veau au cornichon, des nuggets de poulet à la mozzarella, et on trouve ces merguez que j'ai trouvées.
Elles sont dingues, mais même froides, parce que vous les avez fait griller ce matin.
Bah oui.
À l'heure de quitter votre appartement
pour nous
rejoindre.
Je n'allais pas les faire cuire au micro-ondes.
Non, non, mais elles sont même très bonnes et moelleuses et pas du tout sèches.
Alors, dans l'ordre, de haut en bas, vous avez la piquante au bœuf.
Oui.
Vous avez la tunisienne au bœuf, la douce au bœuf et l'agneau. C'est celle la plus proche de vous, Antonin. Et la deuxième en partant du haut, la tunisienne, est absolument merveilleuse. Harissa, bœuf, menthe fraîche, huile d'olive, 5% matière grasse, c'est une merveille.
C'est vraiment délicieux.
Elles sont assez chères, ces merguez. Elles sont entre 19 et 28 euros le kilo.
Ouais, mais je ne suis pas surpris. Voilà. C'est normal.
Et comme le dit Karim Loumi, le patron de la boucherie des Jumeaux, il dit il faut impérativement qu'on mange moins de viande. Lui-même, boucher, lui-même amoureux de l'élevage, amoureux de son métier, dit c'est un peu impensable qu'on continue à en manger autant. Donc manger mieux, manger moins, manger de la viande bien élevée, bien travaillée. Et pour lui, c'est ça, le respect de la viande, et c'est aussi pour lui le respect du Coran. Ça.
Exactement. Voilà. Bah, qu'est-ce que vous pensez, Antonin Bonnet, de ces merguez?
Elles sont très très bonnes.
Sachant que vous en faites aussi.
Oui, on en a fait. Là, on a arrêté.
Oui.
Nous, on a fait un mélange. On a fait moitié bœuf, moitié agneau.
Oui.
On avait sélectionné nos épices chez un ami, donc pour avoir quelque chose de sympa.
Quel genre d'épices? Paprika.
Paprika.
Du piment.
Ouais, paprika fumé. Et on a mis de l'harissa.
Oui.
À la rose et légèrement mentholé. Et c'était très fin, c'était joli.
Il y a la question. Effectivement, la merguez, on a parlé des plumes, des morceaux de plastique, des morceaux de métal parfois qu'on peut trouver. C'est vrai que c'est assez terrifiant de voir à quel point la merguez a été industrialisée dans notre pays pour répondre à une très forte demande, surtout l'été au beau jour, on l'a compris, pour les barbecue parties. Il y a la question aussi, évidemment, des sels nitrités. Vous avez fait un choix, Antonin Bonnet, dans votre boucherie Grégoire, rue de l'Abbé Grégoire, 6e arrondissement de Paris.
Mais il n'y en a pas. Pas de sels nitrités, pas d'additifs, pas de produits, pas de lozou, pas de chimique.
Alors évidemment, la durée de vie de vos saucisses est plus courte.
Alors la durée de vie est plus courte. Ça nécessite aussi une technique, une hygiène profonde. Donc c'est pas parce qu'on a décidé de faire du bio que c'est n'importe quoi. Au contraire, il faut être super propre, super technique, super rigoureux. Et il faut une attention particulière au travail.
Et puis
le résultat est, pour nous, le résultat est très clair.
Incroyable.
C'est le goût, c'est la rémanence, c'est la clarté. Et puis c'est l'après, on sent... voilà quoi.
Et vous avez même des petites astuces de ce que j'ai compris quand vous faites une saucisse aux herbes avec des blettes. Le légume lui-même contient des sulfites naturels qui participent à la conservation de la saucisse.
Oui, alors... je pense qu'avant, on devait faire tout ça naturellement. Il devait y avoir des savoirs qui se passaient de génération en génération. On les a oubliés, on les a remplacés par la chimie aujourd'hui. Mais je pense que si on retourne un petit peu en arrière, qu'on lit et qu'on retranscrit avec la technique aujourd'hui, on peut arriver à des résultats phénoménaux. Voilà, tout simplement. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à la boucherie.
Très bien. Dans un instant, on poursuit notre tour du monde de la saucisse avec Émilie Greenberg et Antonin Bonnet, chef étoilé. Et puis, on boit aussi du Cahors avec Jérôme Gagnez, juste après l'artiste californienne Céleste. She's my sunshine. Bonne journée sur France Inter.
I'm falling.
déguster.
Quel est le lien entre une currywurst, cette spécialité allemande composée d'une saucisse et d'une sauce au curry, et une voiture? Ce sont toutes les deux des spécialités du constructeur automobile allemand Volkswagen, et elles sont produites au même endroit, dans la ville de Wolfsburg. À l'origine, la currywurst servait à nourrir les ouvriers des usines Volkswagen. Aujourd'hui, elle fait la fierté du constructeur autant que ses voitures.
Les employés la mangent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, car c'est très bon et très sain. De la viande bien sélectionnée et le mélange d'épices qui est bien sûr secret. Ce sont les ingrédients essentiels. On ajoute du ketchup, c'est indétrônable.
La currywurst, incontournable également en Allemagne.
Incontournable, partout.
Bon, très industrialisé quand même.
Alors oui, oui, par, oui forcément, mais par la force des choses, je pense qu'ils ne peuvent pas sinon vendre autant de currywurst qu'ils vendent, mais parce qu'elle est guérie de partout.
Dans currywurst, il y a curry.
Il y a curry.
C'est pas un hasard.
Non, c'est pas un hasard. C'est une sauce avec du curry. C'est une sauce tomate où on met un peu de curry en fait dedans.
Alors curry à l'intérieur de la saucisse ou plutôt à l'extérieur dans la sauce ?
Non, à l'extérieur dans la sauce. C'est la sauce tomate qui accompagne la currywurst où il y a du curry à l'intérieur. La saucisse, non, la saucisse c'est une bratwurst ou une brötwurst, c'est-à-dire une saucisse blanche cuite qu'on peut faire soit griller, soit bouillir, avec ou sans peau, parce qu'il y a deux écoles, ceux qui aiment avec ou sans, qu'on coupe en rondelles et on met cette sauce à base de tomates, d'oignons, de sucre et donc de curry.
C'est ça.
Et ça se mange partout dans la rue. C'est vraiment de la street food, un peu comme, c'est de la street comme food, un kebab. Ouais, quoi.
Comme un kebab.
Les touristes qui visitent Berlin se jettent dessus. Il y a même des palmarès de currywurst allemande, c'est quand même une sacrée...
Ah oui, il y a des écoles, il y a des gros concours. Hein.
Une sacrée culture. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui réagissent à notre émission en nous disant « Mais on peut aussi embosser à la maison, embosser, verbe du premier groupe qui signifie faire ses saucisses à la maison, c'est-à-dire garnir, farcir un boyau de préférence naturelle. » Est-ce que c'est la réponse à ce côté anxiogène de la saucisse industrielle qui, par définition, cache... sa garniture, cache sa farce, sa viande. L'idée de sélectionner ses viandes, de les hacher, d'avoir ensuite son embosseur ou embossoir comme un embauchoir. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir, encore une fois, le fait de les faire à la maison, c'est pour aller vers plus de transparence?
Alors ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi un peu ce qu'on venait de dire il y a trois minutes, au sujet, les gens ont envie, je pense maintenant quand même, de faire eux-mêmes, de préparer eux-mêmes leurs produits, parce qu'en fait, ils peuvent tout maîtriser.
Oui.
On peut choisir sa viande, on peut mettre les épices qu'on veut, et effectivement, on voit. Et puis, c'est ludique.
C'est ludique, c'est fun.
C'est enfin, super fun. C'est rigolo, faire une saucisse, c'est très rigolo à faire. C'est vraiment c'est sympathique. Moi, mes premières saucisses, j'étais pliée de rire. Hein.
Alors, c'est pas le sujet de cette émission, parce que c'est quand même une vraie technique. Hein. Il faut un peu de matériel, il faut des grilles de hachoirs, etc. Mais pour embosser à la maison, je signale juste d'ailleurs le petit livre de Mayalen Zubilaga, une auteure marseillaise qu'on aime beaucoup, qui était venue nous parler de Bruce Durov une fois au micro de cette émission. La saucisse maison, 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. C'est une bonne petite méthode dans un petit fascicule très bien fait pour justement amorcer ces saucisses à la maison. En parlant de créativité justement, la saucisse ça peut être le réceptacle de toutes vos influences. On parlait de la Corée avec vous, vous en avez fait un hot dog. On parle de la Lozère, c'est la saucisse aux herbes avec 50% de blettes. Il y a également, vous avez une passion pour l'Orient, le Levant depuis un moment, Antonin Bonnet, et ça peut donner une saucisse assez incroyable.
Alors on a fait une saucisse aux atars en fait.
Et vous entendez Elvira?
Voilà, oui mais je l'ai goûté. Non seulement j'ai entendu, mais j'ai goûté, je me suis ruée dessus.
Donc, alors, au lieu de mettre de l'origan ou autre chose, je suis tombé sur le zaatar parce que j'ai travaillé pour un Libanais, j'ai un pote qui s'appelle Omar, qui est super.
Bon, on peut dire, il a même une très belle adresse à Paris.
Une très belle adresse à Paris.
Omar, évidemment, de...
Mokonuts,
merci. Voilà.
Et tout ça, ça laisse des souvenirs. Et c'est, donc on a fait un essai et ça tombe, c'est absolument génial. Quoi.
Définition du zaatar? Mélange d'épices.
Normalement, c'est un mélange d'épices.
Avec
thym, sumac et un peu de sésame. Nous, on a réussi à tomber sur le zaatar, donc juste le thym libanais en fait.
C'est
on
ça.
Met que le thym libanais à l'intérieur.
Et c'est extraordinaire. Alors, elle a un gabarit, elle est plutôt épaisse. Hein.
C'est comme une saucisse au couteau en fait.
Oui. Qu'on fait griller.
On a remplacé les morceaux de cochon par des morceaux de veau. Il y a un petit peu de cochon dedans, attention. Et du zaatar à profusion. Et c'est dingue, quoi. C'est la saucisse dingue. Quoi.
Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'encore une fois, la saucisse est effectivement un support de créativité pour les chefs, les gens à la maison. Ce qui explique qu'on a envie de faire des saucisses à la maison. Je sens que tous les ustensiles vont être de bons cadeaux de Noël 2019. On va regarder ce qu'il y a dans nos verres et puis ensuite, on continuera évidemment notre tour du monde des saucisses avec un petit passage quand même vers la France.
On va déguster sur France Inter.
Choucroute, saucisse. Choucroute, saucisse.
Attendez, c'était une petite surprise de Lorraine Thomas, notre réalisatrice, et vous ne l'avez pas cette voix ?
Si, Jean-Yann.
Ah bah quand même.
Si, bien sûr.
Allez, c'était
merci,
où ?
Lorraine.
C'était où ?
C'était au petit rapporteur, non ?
La sentence de Jean-Yann au tribunal des flagrants délires, sur nos ondes, mais il y a quelques décennies. Saucisse choucroute, les paroles étaient très très développées.
Oui, c'est de la poésie.
J'espère que votre chronique 20 va contenir un peu plus de mots.
J'espère aussi.
Alors ? Ah, il a réussi, bravo. Oh. Très très beau plop, bien
les gestes. On parle aujourd'hui d'une appellation que j'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps, après en avoir m'en être un peu éloigné parce que les vins me plaisaient pas forcément beaucoup, à l'exception d'un ou deux. Je suis allé y faire un tour et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que j'ai vu, ce que j'ai goûté, ce que j'ai rencontré. Il s'agit de l'appellation Cahors.
Ah.
Alors Cahors, c'est vraiment aujourd'hui le vent de la jeunesse, la renaissance d'un grand terroir. C'est une appellation qu'on a toujours, disons qu'on a parfois un peu mis de côté parce que on trouvait les vins plutôt rustiques, un peu lourdeaux, souvent très tanniques. Et il faut bien reconnaître qu'on avait à un moment donné pas forcément complètement tort. Aujourd'hui, ça change beaucoup. Il y a toute une nouvelle génération qui s'installe, et puis il y a surtout, c'est surtout l'occasion de redécouvrir un très grand terroir. En réalité,
vous nous le resituez géographiquement,
alors,
Jérôme ?
On est dans le sud-ouest, évidemment, situé au nord d'Agen, et c'est en fait une appellation qui fait en gros 4500 hectares sur un potentiel de 21 000. Donc c'est énorme. Hein. Et en fait, c'est une appellation dont les terroirs se situent le long des méandres du Lot. Donc c'est évidemment très beau, les paysages sont magnifiques. Et puis pour faire très très rapide, il y a en gros les terroirs qui sont le long du Lot, c'est les premières, deuxième et troisième terrasses qui se distinguent par la distance qui les sépare du fleuve d'une part et d'autre part, donc aussi évidemment la nature des sols et sous-sols. Plus on est proche du fleuve, plus c'est alluvionnaire, plus on s'écarte du fleuve, moins c'est alluvionnaire et plus on a d'argile notamment, ainsi qu'un petit peu de calcaire. Et puis il y a aussi le terroir du Caus, qui sont ces plateaux en surplomb de la vallée du Lot, et là sur lesquels on a des calcaires de très grande qualité, un réel très grand terroir avec notamment des argiles sidérolithiques. Ce sont des argiles en fait très riches en fer. Il y a notamment, je suis allé voir au domaine des Croisilles, au château des Croisilles, Germain Croisilles m'a montré une parcelle où on a vraiment des petits cailloux ferreux. Il y en a beaucoup, c'est absolument sidérant. Ça donne des vins avec une identité très particulière. L'histoire de cette appellation, vous l'aurez sur le site, j'ai mis toute l'histoire. J'ai fait un résumé, j'espère qu'il n'est pas complètement faux. De l'histoire de l'appellation, c'est une appellation qui avait vocation à avoir la réputation et qui est capable de faire des vins à la mesure des grands Bordeaux, dont l'expression d'une finesse, d'une race du terroir a tout à fait extraordinaire. L'histoire en a décidé autrement. Le fait est, c'est que repartons à la découverte de ces grands terroirs calcaires. Il n'y a pas beaucoup d'appellations en France qui produisent des grands vins rouges sur des grands terroirs calcaires, aussi calcaires que ça. Et donc c'est une particularité de Cahors qui fait que il faut absolument que vous alliez voir ça parce que c'est formidable.
Et révélez-nous quand même le cépage unique.
Alors le grand cépage évidemment de l'appellation, c'est le Malbec qu'on appelle localement Auxerrois. Alors Auxerrois pas pour la ville d'Auxerre, mais Auxerrois parce que c'était le cépage des Hautes Serres. Et donc ce cépage qui est vraiment cadurcien au départ, s'est exporté notamment en Argentine, donc l'Argentine qui est maintenant aujourd'hui le plus gros producteur de ce qu'on appelle le Malbec internationalement. C'est le nom bordelais, en fait, le Malbec. Ce cépage, on le connaît beaucoup à travers l'Argentine, mais en réalité, il est bien cadurcien. Et c'est un cépage qui est capable de produire des vins d'une grande finesse, d'une grande fraîcheur. On ne peut pas citer le renouveau de cette appellation sans parler d'un domaine qui s'appelle le domaine Cosse Maisonneuve. Mathieu Cosse et Catherine Maisonneuve, qui sont des gens réellement formidables. Il faut les rencontrer, écouter leur passion profonde pour ce terroir. Ils sont pas cadurciens d'origine. Il faut les rencontrer pour comprendre ce qui a motivé leur venue.
comprendre qu'ils ont découvert un terroir de dingue, qu'ils s'y sont installés, qu'ils ont travaillé comme des fous et qu'ils ont vraiment redonné aussi des lettres de noblesse à ce grand vin. Ce ne sont pas les seuls, il y a eu Jean-Luc Baldès qui l'a fait, il y a eu Alain-Dominique Perrin avec un style qui était bien à lui. Pas forcément le mien, mais au moins... Non, mais il a fait un travail fantastique.
Il est gentil aujourd'hui.
Il a fait un travail fantastique.
Il s'est calmé.
Non, mais c'est un peu des vins de menuisier chez Dominique Perrin.
Je pensais que Jérôme s'était mis au yoga et qu'il avait ouvert ses chakras.
Mais le fait est quand même, c'est qu'il a quand même pas contribué à faire parler de cette appellation dans le monde entier. Château La Grezette. On peut pas non plus passer sous silence le travail de Pascal Verrague, de gens comme ça quand même qui ont beaucoup fait pour l'appellation. Et puis ben Mathieu Cosse et Catherine Maisonneuve et Mathieu Cosse en 99 qui s'installent. C'est un vent nouveau qui souffle, un style de vin tout à fait différent. Et on retrouve là des vins avec une grande fraîcheur, une grande tension minérale, des vins qui sont pas forcément hyper accessibles aux jeunes. Les premières cuvées chez Catherine et Mathieu sont très accessibles, c'est comme celles qu'on va goûter maintenant. Mais le fait est, c'est que ce sont des vins qui sont quand même des vins passionnants dans leur profondeur minérale, dans leur expression de terroir. Et donc, je vous propose aujourd'hui les vins d'un tout jeune domaine. Mm-hmm. C'est leur deuxième millésime. C'est extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Ça s'appelle la Calmette.
Oui.
C'est vraiment des gens qui font un travail absolument formidable. C'est Maya Salé et Nicolas Fernandez qui sont installés à 13 pouces Raciel. Et nous avons tous dans notre verre, je vous invite à le goûter tout de suite en même temps que moi.
Étiquette très graphique et créative.
Oui, c'est des très belles étiquettes bleues, très graphiques, effectivement. Ça s'appelle le serpent à plumes. C'est en vin de France parce que c'est moitié bon. Merlot, moitié Cabernet. C'est l'expression du calcaire. Il y a une partie de vendange entière, donc tout ça est hors appellation, donc c'est en vin de France. Goûtons ce vin qui est juteux, qui est frais, qui est acidulé. On est loin des vins très tanniques. Je vais vous proposer un autre vin juste après. Ça s'appelle 13 pots, ça veut dire les trois puits. Et ce vin, il est plus puissant, plus charnu. Il y a une trame tannique un peu plus saillante aussi, mais voilà un grand vin de Cahors qui vieillira admirablement bien et qui fait honneur à l'appellation avec trois terroirs qui sont les marnes chiméridiennes, les calcaires et les argiles sidérolytiques. Des grands vins. Vraiment, la Calmette...
Serpent à plumes.
Je mangerais bien une saucisse grillée aux attards avec ça, moi.
La Calmette, c'est vraiment un domaine formidable. Il faut aller les voir et goûter leur vin.
Très bien, bravo, toutes les références. Mais recitons quand même cette cuvée que vous nous avez servie.
Ça s'appelle le serpent à plumes millésime 2018 de la Calmette. C'est formidable.
Ça coûte combien?
Ça coûte 12 euros au domaine. Oh. C'est un rapport qualité-prix totalement imbattable.
C'est chouette, Elvira.
On a des commentaires d'auditeurs qui nous disent, bon, les hot dogs, merguez, saucisse de Munich, currywurst, c'est bien joli, mais quand est-ce qu'on parle de la saucisse de Toulouse?
Eh ben, on y vient justement, page dans des tout premiers, c'est d'ailleurs le premier chapitre que vous consacrez évidemment à la saucisse française, car elle existe dans votre livre « J'aime la saucisse », Émilie Greenberg. Il y a la morteau, la montbéliard, la tartinette, le boudin noir, la chipolata, qui contrairement à sa consonance italienne est bien française. Mm-hmm. Et il y a effectivement la Toulouse aussi.
Il y a la Toulouse.
Alors la Toulouse, évidemment. On la définirait comment? C'est plutôt des morceaux épais?
C'est plutôt des gros morceaux, voilà. Oui, c'est du porc, ça bouge pas. C'est une saucisson crue.
Oui.
On parlait tout à l'heure des... Voilà, donc c'est une saucisse crue qui peut se faire effectivement griller et qu'on peut cuire avec en accompagnement. Quand vous faites votre cassoulet, vous la mettez dedans et elle va cuire comme ça, lentement, mijotée.
Il y a un auditeur qui nous demande aussi la différence entre une saucisse de Francfort et une saucisse de Toulouse. On sait que ça se passe à peu près dans la même aire géographique.
Non, c'est Strasbourg.
Pardon, de saucisse de Strasbourg, absolument, on était sur Toulouse. Saucisse de Francfort et saucisse de Strasbourg, ouais. Oups.
Alors, la différence, c'est la composition. Voilà, en gros, c'est ça. Donc la Strasbourg, c'est porc-bœuf, et la Francfort, c'est que porc.
Mais c'est des knacks.
Mais c'est les deux, ce sont des knacks. D'ailleurs, la saucisse de Strasbourg, on l'appelle aussi la knack d'Alsace, qui a essayé d'avoir son IGP, qui donc finalement ne l'a pas eu. Il y a eu tout un pataquès. Et donc finalement, on n'a pas pu la voir. Mais donc en gros, c'est ça. Donc c'est deux saucisses, dites émulsifiées, ce qu'on disait tout à l'heure, donc cuites, c'est-à-dire qui sont avec une chair. Bah, c'est la fameuse knack.
Et pourquoi knack?
Parce que quand vous la mangez, quand vous la mordez, ça le fait knack. Elle claque. Ça vient de là. En fait, le bruit, c'est une onomatopée. C'est devenu un verbe en allemand.
Knacken.
Knacken.
Voilà. Qui veut dire claquer.
Qui veut dire claquer.
Une bonne knack claque.
Elle doit knacker.
Très bien.
Absolument. Si elle knaque pas, elle est pas bonne.
On nous demande encore, il nous reste quelques minutes, la différence entre une saucisse de Montbéliard et une saucisse de Morteau, sachant que là aussi, on est dans le Jura ou le Haut-Jura.
La taille. On va parler taille, là. La taille, ça compte. Donc, surtout chez Morteau et chez Montbéliard, ça compte. Voilà, donc la Morteau est plus grosse.
Oui.
Et la Montbéliard est plus fine. D'accord. Sinon, ce sont deux saucisses qui sont fumées dans les tuyers. en Franche-Comté.
C'est ça.
Et donc c'est du porc et saucisse fumée qui se fait cuire, mijoter, super bon.
Il y en a une
qui peut se faire aussi d'ailleurs, pardon, au four en papillote, super bien.
Et il y en a une qui a une petite épingle.
Oui, et tout à fait, ouais. La morteau, elle est fermée avec une petite cheville en sapin.
Une petite cheville en sapin, super. On finit avec une petite recette en quelques gestes parce que Antonin Bonnet revendique ses origines paysannes, notamment à travers cette soupe que vous nous avez servie. C'est une soupe à la saucisse.
Oui.
Racontez-nous.
C'est simple comme tout, quoi. C'est deux carottes, deux poireaux, quatre patates, un petit peu d'ail.
La simplicité, c'est ce qui est le plus compliqué.
De l'eau, une eau bonne.
Ouais.
Parce que j'appelle une eau bonne, c'est-à-dire une eau propre.
Oui.
Deux saucisses, vous mettez tout dans la casserole, faites cuire tout doucement.
Oui, génial.
Une bonne noix de beurre de micelle, une feuille de laurier.
C'est ça, tout génial. En même temps. Donc il y a le goût de la saucisse dans la sauce, et puis cette.
La saucisse dans la sauce, la sauce dans la saucisse, les patates s'écrasent un tout petit peu. Vous coupez vos saucisses, vous mettez dans l'assiette, un coup d'huile d'olive, sel, poivre, et c'est parti.
Génial. Ben, on va la faire à la maison. La recette est sur franceinter.fr à la page On va déguster. Je vous encourage à aller chez Quinsou, une très belle adresse à Paris, rue de l'Abbé Grégoire. Le numéro pour Quinsou?
33.
Et juste à côté.
Comme le docteur.
Et juste à côté, au numéro 29. Donc vraiment à 50 mètres. Vous avez la boucherie Grégoire que vous avez reprise où vous faites des saucisses vraiment exceptionnelles. Merci beaucoup. J'aime la saucisse d'Emily Greenberg. On a adoré votre livre. Emily, aux éditions Amy Green. Ça peut être une très bonne idée de cadeau pour ceux qui adorent la saucisse. Toutes les références saucisses sont en ligne. La semaine prochaine, on embarque à bord d'un bateau à Port-en-Bessin pour aller à la pêche à la Saint-Jacques. Et le chef normand Christophe Saint-Aigne nous donnera une leçon de cuisine autour de la Saint-Jacques. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim.